La vie personnelle, elle est, on va dire, un petit peu en parenthèse. Pour moi, c'est ma mère avant tout. C'est son bien-être et au fur et à mesure que les choses se dépatouilleront, après, je pense que je pourrais revenir sur des choses plus communes me concernant. Ce qui me manque le plus, on va dire, c'est surtout mon énergie créative constante que je dois taire la plupart du temps parce que j'ai du mal à m'y remettre vraiment. Je mets tout mon enthousiasme sur ce que je fais pour ma mère et voilà.
Aider, s'entraider. Le podcast qui donne la parole aux aidants. Les aidants représentent en France plus de 9 millions de personnes. Ce sont des hommes et des femmes qui soutiennent quotidiennement un proche en perte d'autonomie, en situation de handicap ou de maladie. Aider, s'entraider. Un podcast proposé par Malakoff Humanis en partenariat avec Audencia. Anthony a 41 ans. Il est illustrateur et animateur d'ateliers dessin dans la région nantaise. Depuis 2017, il héberge dans son studio de 25 mètres carrés et soutient au quotidien sa mère en perte d'autonomie.
Ma mère a eu un AVC fin 2015. Et heureusement pour nous, elle était avec nous en France parce que juste avant, elle venait du Bénin. En fait, elle venait se reposer un petit peu ici, voir ses petits-enfants. J'ai accepté de la garder avec moi. Au départ, ça devait être temporaire. Ça devait être quelques mois, tant qu'on trouve une solution dans le sud du côté, j'ai mon frère. Et au fur et à mesure, on a compris qu'il y avait beaucoup plus de complications, on va dire, administratives pour ce qui serait d'un placement en EHPAD ou autre. Ça fait depuis, du coup, mai 2017 que je garde ma mère. Et donc voilà, là, on était avant dans un appartement un peu plus grand. Mon appartement, c'est voilà, un petit studio qui fait une vingtaine de 25 mètres carrés, on va dire, en tout et pour tout. Avec une terrasse couverte dont je ne profite pas encore pleinement parce que c'est un petit peu désorganisé. Ça fait quelques années que c'est comme ça. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai du mal à bien repositionner tout par rapport à la position de la télé, la position des portes et tout ça. Donc là, pour l'instant, c'est la meilleure configuration possible pour laisser la place au lit médicalisé de ma mère. Là-dessus, après, peut-être que de mon côté, j'arriverai à faire un montage de la mezzanine. Pour arrêter de dormir sur le BZ parce que ça peut être infernal des fois. Je me retrouve des fois avec, on va dire, des traces du BZ sur la jambe, donc c'est pas super. Des fois le matin, c'est assez infernal. Je me retrouve avec des torticolis. Enfin, j'ai réussi à m'y faire, mais je pense que ça pourrait être mieux, c'est vrai, mais c'est une question d'organisation. J'ai appris à essayer de me décoincer pour faire avancer les choses. Mais le moment où les choses ont vraiment commencé à bouger à nouveau, c'est quand il fallait renouveler les droits à la MDPH pour ma mère et que j'ai été approché par la SAMSA. C'est une équipe pluridisciplinaire qui est composée d'un médecin, d'une infirmière, d'une ergothérapeute, d'animateurs qui me guident sur ce que je dois chercher, qui m'allègent des tâches qui sont les plus pénibles et rébarbatives et qui simplifient les choses, qui m'aident moi autant que ma mère pour avancer vers des projets, pour établir des vrais projets à moyen ou long terme. Et on réévalue les projets en fonction de ce qui a été fait ou pas, de ce qui est des nouvelles avancées et des nouveaux désirs de ma mère par rapport à qu'est-ce qu'elle voudrait faire ou qu'est-ce que moi je voudrais pour elle. Et au fur et à mesure, j'ai appris voilà, à revenir un petit peu, à m'ouvrir un petit peu sur l'extérieur voilà, à accepter de l'aide. Ce sur quoi j'avais un stress auparavant parce que j'avais eu des aides à domicile presque chaque jour, c'était un nouveau qui venait, que je devais rebriefer de mon côté, donc je constatais la difficulté de leur côté, mais ça n'empêchait pas que ça me mettait du stress aussi de mon côté. Après mon déménagement, j'ai mis un certain temps à reprendre contact avec eux une fois que les choses s'étaient remis un peu à plat. J'ai diminué les interventions pour le mettre au strict minimum, car ma mère n'ayant pas eu de revenus pendant une très longue période, et compte tenu du reste à charge pour les aides à domicile, j'avais réduit à un jour par semaine et pour une sortie, par exemple le samedi et ensuite le lundi.
Entre le stress généré par les interventions quotidiennes et le reste à charge difficile à assumer, Anthony a préféré un temps, assumer seul ou presque, auprès de sa mère, beaucoup des gestes du quotidien. Les repas, la toilette, les sorties et bien sûr, les rendez-vous médicaux.
Je lui ai fait à manger, je l'aide à s'habiller dans la mesure du possible. Elle commence à se débrouiller de mieux en mieux pour l'ensemble de la partie basse. La partie haute, c'est encore dur et je vais essayer de lui trouver des vêtements adaptés qu'elle puisse plus facilement mettre elle-même. Mais voilà, elle va seule aux toilettes, tranquillement, elle se débrouille très bien. Quand je ne suis pas là, elle peut se déplacer dans le studio, tranquillement, quand elle a besoin d'aller aux toilettes, si elle se motive. La plupart du temps, c'est le seul souci, c'est vraiment qu'elle se motive à se bouger aussitôt qu'elle en a besoin. Et la plupart du temps, effectivement, quand je suis pas là, elle a pas le réflexe de motivation. La plupart du temps, je l'appelle sur son téléphone pour dire: Maman, fais attention, bouge-toi, déjà main, ne reste pas trop assise. Je l'accompagne tous les jours pour des séances de kiné. Au départ, je m'étais dit, j'allais accompagner au début et après, j'allais laisser faire. Mais au fur et à mesure, ça n'a pas manqué, j'ai pas réussi à lâcher prise. J'avais quand même mes yeux pour que ça se fasse de façon plus fluide. Heureusement, avec mon travail actuel, je fais assez souvent du télétravail. Donc hormis les passages en boutique ou les interventions pour des ateliers de dessin, j'ai relativement du temps libre pour m'occuper de ma mère, en particulier les matinées. Donc là-dessus, ça permet de s'organiser pour les rendez-vous parce que je me dois enfin, de mon point de vue, de tous les rendez-vous, dans la mesure du possible pour éviter qu'il y ait des confusions, parce qu'effectivement, il y a une grande confusion spatio-temporelle et du coup un grand problème aussi de concentration là-dessus. Elle peut poser une question et la reposer dans le quart d'heure derrière, parce que justement, elle avait sans doute quelque chose d'autre en tête pendant qu'elle posait la question. Mais en dehors de la mémoire, l'autre difficulté, c'est les difficultés de déglutition, et donc je reste toujours en alerte. On va dire ce côté-là, jour et nuit. C'est une alerte permanente qui fait que du coup je me couche beaucoup plus tard. Je reste collé à mon PC le plus tard possible pour voir si ça va bien. Et après, des fois malheureusement, je reste collé plus que de raison au PC et ça change la nature de mes fuseaux horaires en général. Donc là, le matin, heureusement, j'ai pas énormément de choses côté travail, à part en télétravail. Donc ça fait partie des aléas.
Illustrateur et animateur d'ateliers dessin à temps partiel, Anthony assure également de temps à autre des permanences dans la boutique qu'il emploie. Il bénéficie d'une écoute attentive et d'une grande compréhension de la part de ses collègues, pour lui un soutien précieux.
J'ai expliqué la situation à mes collègues, ils comprennent très bien, ils savent très bien de quoi il s'agit, ils savent à peu près tout de la situation. Et ma collègue qui fait la gestion de l'entreprise et de l'association s'ajuste toujours au mieux pour que ça n'empiète pas sur la partie de mon côté, de mon aide à ma mère. Donc, quand elle fait un planning, elle me demande expressément de bien vérifier, d'être sûr que ça n'empiète pas sur ce que j'ai à faire. Et si jamais il y a des difficultés par rapport au planning, elle va me dire: Attention, tel jour on aura besoin à telle heure de toi, vérifie que ça ne va pas trop empiéter, par exemple, si elle a besoin de moi à partir de midi sur une journée, parce que ça va être, il va y avoir une extra activité, ça va être boosté. Elle me prévient assez longtemps à l'avance pour être sûr que je puisse bien faire les choses et qu'il n'y ait pas de souci après. Elles s'organisent toujours en fonction de ça, elles se renseignent et là-dessus ils sont très compréhensifs. Ils font au mieux pour que ça il n'y ait pas de bousculade de mon côté. Il y a beaucoup de télétravail, beaucoup d'ajustements en fonction de mes disponibilités, de mes possibilités. Et de mon côté, ça me donne plus de volonté d'avancer, d'en faire mieux. Les projets qui sont établis par SAMSA au fur et à mesure qui nous suivent donnent une certaine perspective. Donc ça a redonné une certaine, on va dire, sérénité, des disponibilités. Il y a toujours un petit peu des fois de frustration. Quelque part, ça peut toujours venir un petit peu. Mais c'est, comment dirais-je, c'est contrecarré, c'est rééquilibré par le fait que je suis quelque part, on va dire, reconnaissant, déjà envers le SAMSA, mes frères, tout ça, mais aussi reconnaissant d'avoir ma mère auprès de moi, parce que je crois que je me suis rendu compte du poids que ça relevait des épaules de mon frère et de ma sœur, un petit peu de tout le monde, et aussi des miennes, parce que de l'avoir à côté de moi, voilà, quelque part, je me suis rendu compte à quel point, au fond, ça pouvait être rassurant.
Sabrina Bouassoun est docteure en psychologie, neuropsychologue et responsable du pôle adulte du réseau Mémoire Aloïs, un centre d'expertise neurocognitive qui permet une prise en charge adaptée pour les patients et les aidants. Certaines situations d'aidance peuvent mener à l'épuisement, conséquence d'un stress répété et prolongé. Sabrina Bouassoun décrit les symptômes qui doivent alerter.
C'est la présence de symptômes qui peuvent être d'ordre physique, comme des douleurs, de la fatigue. Ça peut être également des infections répétées qui montrent que la santé physique est fragilisée. Ça peut aussi se manifester par des troubles du sommeil. Alors les troubles du sommeil, c'est pas forcément des difficultés d'endormissement. Ça peut être également le fait de se réveiller la nuit, d'avoir du mal à se rendormir ou de se réveiller très tôt le matin alors que ce n'était pas dans nos habitudes. Il peut y avoir également des troubles de l'appétit qui peuvent être donc soit une perte d'appétit ou au contraire une augmentation assez significative de l'appétit. Il peut y avoir de l'irritabilité, de la tristesse, mais aussi un sentiment de culpabilité sur la situation actuelle, des difficultés à gérer ses émotions. Et puis la présence de pensées négatives assez régulières sur un sentiment qui peut être de l'ordre de l'impuissance, se sentir dans l'incapacité d'aider correctement la personne qu'on accompagne. Et ça peut également se manifester par une sorte de cynisme, d'être pessimiste sur la situation et sur le devenir de la situation. Et tout ça, ça peut également induire des modifications de nos habitudes, de nos comportements, avec un isolement social, une baisse de notre vie sociale. On va moins voir ses amis, ses collègues, on va éviter certaines situations de peur de ne pas réussir à gérer ses émotions. Les conséquences qui peuvent être liées à la situation d'épuisement dans le cadre justement de l'aidance, elles peuvent être premièrement d'un point de vue relationnel, notamment en lien avec la présence des troubles comportementaux qui peuvent être là d'une part pour la personne qui est aidée, mais aussi des symptômes psychologiques qui peuvent être présents pour la personne qui accompagne, à savoir l'irritabilité qui peut justement rendre difficiles les échanges dans la vie quotidienne notamment. Cette relation d'aidance, souvent elle concerne un aidant familial ou en tout cas un proche, et donc cette relation il faut essayer de la préserver. Par exemple, l'aidant peut bénéficier d'un suivi psychologique qui pourra l'aider à gérer au mieux cette nouvelle relation. Ce qu'on constate effectivement, c'est que le plus souvent, le temps qui va être investi pour accompagner la personne aidée ne va pas permettre à l'aidant de pouvoir prendre soin de sa santé de façon adaptée. Et donc, ce qui va être important et les points de vigilance à avoir, effectivement, c'est que la personne qui accompagne un proche doit pouvoir avoir des moments au cours desquels il peut aller faire ses différents rendez-vous médicaux pour ne pas impacter son suivi médical, donc à la fois auprès de son médecin traitant, mais également auprès des médecins spécialistes qui le suivent.
Rompre son isolement en partageant sa situation d'aidant avec d'autres personnes concernées de la même façon peut représenter un facteur réducteur du stress auxquelles sont soumis les aidants.
Une des caractéristiques donc de l'aidant, c'est de ne pas être un accompagnateur professionnel et d'accompagner son proche aidant dans la vie quotidienne. Et effectivement, il peut y avoir un sentiment d'isolement qui s'installe. Il peut y avoir beaucoup de choses à gérer sur le plan administratif, sur le plan de la vie quotidienne, sur le plan de l'organisation. Et c'est important pour l'aidant de reconnaître son statut et que ce statut soit reconnu également par les différentes institutions auxquelles il peut demander de l'aide. Le conseil départemental, les CLIC, les CCAS, la CAF, pour essayer de rompre ou en tout cas d'éviter ce sentiment d'isolement, participer à ce qu'on appelle des cafés aidants, au cours desquels, en fait, ça va être l'occasion pour l'aidant d'échanger sur son vécu et puis de pouvoir également entendre le vécu d'autres personnes qui sont dans sa situation. Puisque en France, on estime qu'un Français sur cinq est dans une situation d'aidance. Et donc, finalement, de pouvoir avoir aussi des échanges avec d'autres personnes qui sont dans les mêmes situations peut également contribuer à diminuer ce sentiment d'isolement Donc, pas seulement par les aides qui peuvent être données par les structures publiques et les structures médico-sociales d'accompagnement, mais également de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui vivent des situations similaires, et pouvoir, échanger des conseils, pouvoir aussi également simplement partager, le vécu, de cette situation d'aidance. Le stress qui est provoqué par la situation d'aidance peut essayer d'être diminué justement en faisant appel à toutes les ressources qui sont possibles. Donc à la fois en ayant un accompagnement et une aide dans toutes les démarches administratives, les demandes d'aide et d'accompagnement, mais aussi en mettant en place ces dispositifs-là, donc notamment pour soulager la charge mentale, mais également la charge au quotidien en termes de temps et d'investissement, pour qu'il puisse les investir dans son bien-être et dans la gestion de son quotidien et des autres sphères de sa vie, comme sa sphère professionnelle, familiale, personnelle, au quotidien.
Aider, s'entraider, un podcast proposé par Malakoff Humanis en partenariat avec Audencia. Retrouvez d'autres épisodes sur les plateformes de podcast.